Que penser de la mort en tant que service public? Eh bien, à mon avis, qui se trouve être l'avis de référence auquel j'ai le plus volontiers tendance à me ranger, quand il m'arrive de vraiment vouloir savoir ce que je pense, hein, à mon avis, la mort devrait être un service public gratuit pour tout le monde. Ah oui, comme la naissance. D'ailleurs, l'heureux temps chanté par Brassens, l'heureux temps où les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul. Bon, ben, c'est un temps qui révolue maintenant. On vit désormais dans une démocratie couchée. Ouais, c'est vrai. Et il me semble que dans une démocratie couchée, il est naturel que les morts donnent l'exemple de l'humilité. Je suis pas clair, hein. N'empêche qu'il avait le sens de la formule, le père Brassens. C'est joli, les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul. Moi, j'avais une passion pour Brassens. Un de mes grands regrets, c'est de ne pas l'avoir connu de son vivant. Brassens, le seul rapport que j'ai eu avec lui, c'était un rapport téléphonique, un coup de fil. Il m'a téléphoné un jour chez moi, c'était peu de temps avant sa mort. Il m'a dit, je me rappelle ses mots exactement, il m'a dit « Allô, monsieur Desproges, je suis Georges Brassens, je vous téléphone pour vous dire que j'aime beaucoup ce que vous faites. » Alors bon, j'ai répondu que moi aussi j'aimais beaucoup ce que je faisais, évidemment. C'était notre point commun, quoi, Brassens et moi. Je décode, là. Je pense pas ce que je dis, là. Non, en fait, j'aimais vraiment Brassens. J'ai pas peur de l'avouer, hein. J'ai 40 ans passés. Eh bien, le jour de la mort de Brassens, j'ai pleuré comme un môme. J'ai vraiment pas honte de le dire. Alors que c'est curieux, mais le jour de la mort de Tino Rossi, j'ai repris deux fois des moules, dis.
Curieux.
Bon, allez, assez parlé des morts. D'ailleurs, on devrait parler que de ce qu'on a vu. On dirait sûrement moins de conneries. Encore que... Eh, hey, dites, si on devait parler que de ce qu'on a vu, est-ce que les curés parleraient de Dieu? Est-ce que le pape parlerait du stérilet de ma belle-sœur?
Moi, je suis con, hein, mais putain, j'aime ça. Hein. Oh là là là.
C'est alors que tout bascula. Nous stoppâmes une énième fois. Quelque chose avait retenu notre attention. Un bruit au loin. Route 77, épisode 25, chapitre 11, le faucheur de la mort. Que dire de notre état psychologique ? Tant nous étions déjà fort conditionnés par les circonstances absurdes de notre existence perdue dans un désert abject. Même Bottus ne savait plus que penser. Jamais mon ouïe n'avait autant travaillé dans la perception d'indices infimes d'une présence invisible. Nous écoutions dans une direction qui se précisait. De longues secondes écoulées ne nous laissaient aucun doute. Il y avait bien un murmure bizarre au fin fond de la nuit. Bien que l'on ne voyait rien qui permette d'identifier la cause de l'interpellation auditive, nous supputions secrètement la pire alternative entre sauvetage et perdition fatale. Une certitude s'imposait. Le bruissement croissait car il venait à notre rencontre. Mieux, il nous visait. Le son s'amplifiait dans la résonance naturelle du silence ténébreux. Distinctement, un concert de clochettes fut décrypté par nos oreilles sensibilisées à l'étrange scénario dont nous étions sûrement les acteurs, les proies. Je lâchai. Les clochettes ! Ce sont des clochettes ! C'est la charrette du faucheur, certitude de Bottus. C'est pour nous ? Peut-être pas. Il n'y a personne d'autre. C'est peut-être pour nous. C'est pour nous. Ma courte vie défila dans un chaos d'idées paniquées. Vie-mort devenait un couple enfanteur d'erreurs. J'étais certes une erreur. L'existence, une illusion maladive. Le grand maître du temps allait sacrifier ses élèves sur l'autel dérisoire d'une jeunesse à la dérive. Il fallait que j'accepte cette décision de la roue du hasard. Condamnation de l'au-delà. Pourquoi pas ? Inspiré d'un regain ultime, nous nous sommes consultés du regard, convaincus de vivre notre dernier instant. Nous nous transmettions nos pensées en un éclair de lucidité consciencieuse. Finalement, nous nous avérions fiers d'entrer dans la légende ésotérique de cette contrée paumée, au bout d'un monde. Je suis prêt, t'es prêt, je suis prêt. Y'a pas à flipper, y'a pas à flipper. Tu crois qu'on se réincarnera ? M'enquiai-je, sursaut pratique. Si l'on doit se réincarner, ce sera ensemble pour ne pas se séparer dans une autre vie. Ouais, nous serons des frères jumeaux. Non, nous serons un, tous les deux dans un seul être. Nous serons plus forts, nous. Ha ha, dépêche-toi, faucheur ! Qu'on affronte ta maîtresse, la mort. Viens si tu oses. Tu ne me fais pas peur, montre-toi. Crouille-toi, salopard. Tu ne m'as pas encore eu. C'est moi qui vais t'avoir crevure, jurelais. Nous nous lançâmes en avant vers le terrain de notre combat final, comme des chevaliers, brandissant tournoiement des épées hallucinées par la fièvre du délire. Un tintamarre de clochettes envahissait l'entièreté de l'espace, en alliance avec le cosmos absolu. Nous vîmes une tache, puis une ombre grandissante. Nous vîmes clairement le faucheur de la mort, debout sur sa charrette. En réalité, nous l'avons deviné, tellement nous l'avions imaginé. En un espace-temps unique, vision osmotique, nous l'avons véritablement vu précisément. Il nous fallut une pincée de secondes interrogatives pour discerner ce qui nous arrivait. Une auto à mi-six, déglinguée, cahotait feu éteint, en orchestrant une symphonie infernale de couinement rendant le moteur quasiment inaudible. Le relâchement de nos nerfs a déclenché nos rires. Notre expédition au cœur de l'oubli prenait un tournant cocasse. À suivre. À suivre.
Rends-moi grand d'une ville, grouille à la foule des saoulés. J'ai envie au hachoir. À moi s'agrippe des grappes de tyrans, des archanges aux blanches canines, qu'on me disperse. Je suis noir de monde, qu'on me dispense du son des leçons, qu'on me dissipe. En moi ce vôtre de divan, de l'art à la carotide. Circulent des rumeurs à faire pâlir. Qu'on me disperse. Je suis noir de monde. Qu'on me dispense du son des leçons. Qu'on me distribue à tous les Jésus. Je voudrais t'aimer comme un seul homme. Arrêter d'inonder la Somme. Avoir l'amour en bandoulière. L'amour en bandoulière. La foule dessoulée, ses envies au hachoir. À moi s'agrippe des grappes de tyrans, des archanges blanches canines, tueurs de mémoire à la conscience obèse, joue du Varèse. Comme dit Sloc. Comme dispatch, quand m'évapore. Comme disperse, je suis noir de monde. Comme dispense du son des leçons. Comme distribue à tous les Jésus. T'aimer comme un seul homme. Arrêter d'inonder la Somme. Avoir l'amour en bandoulière. L'amour en bandoulière. Comme dit Sloc.
De l'épisode précédent, nous en étions là. Notre expédition au cœur de l'oubli prenait un tournant cocasse. Route 77, épisode 26, suite du chapitre 11, Le faucheur de la mort. L'espérance en un sort bénéfique céda rapidement à une inquiétude instinctive. Il ne fallait pas se réjouir trop vite. Nous avions franchement anticipé sur notre dernier souffle qui n'était peut-être qu'à retardement. Le véhicule s'arrêta en plusieurs à-coups devant nous, resté fiché au milieu de la route. La lune éclairait de travers et allongeait les ombres, provoquait davantage de tumulte dans l'équilibre menacé de nos sens. Nous étions sauvages à la ville et nécessairement prudents à la campagne. Face à face troublant entre la voiture et nous, dans un semblant de duel du Far West, en Brethelem, nous étions bel et bien dans l'ouest extrême du vieux continent. Botus m'a commandé de ne pas bouger tandis qu'il s'avançait mesurément vers l'habitacle nomade. Il se pencha à la vitre baissée du chauffeur et parlementa assez longuement, puis revint vers moi pour me prévenir discrètement. « Ce sont les frères Graves. Ça craint Vérivelu. Ce sont les pires bandits du coin. Ils reviennent d'un mauvais coup. » C'est pour ça qu'ils ne mettent pas les phares? Non, c'est la batterie qui a plus de jus. Qu'est-ce qu'on fait? Ils veulent bien nous prendre dans leur caisse. Ça peut nous avancer. Au moins, ça nous réchauffera. Ça craint vraiment, je t'assure. Ils vont chez eux. Ils proposent qu'on vienne avec eux et qu'on reparte au jour. Qu'est-ce qu'on décide? Ouais. On monte dans leur bagnole. Tu me laisses faire surtout et ça ira. C'est pour ça que tu dis qu'ils sont graves? Graves, c'est leur nom. Leur vrai nom de famille. Accompagné par le klaxon, une grosse voix s'est impatientée. La mort nous les avait-elle envoyés? Saloperie! Elle ne nous lâchait pas. Faut dire qu'on l'avait cherché de l'avoir taquinée. Nous adoptâmes une attitude sereine en abordant la Citroën bizarroïde. Petit, j'avais une Anglade miniature en fer dont la forme bizarre m'attirait. La missis relevait d'une bizarrerie similaire. Cet aspect sympathique contrastait avec les trois têtes patibulaires à l'intérieur. Je cachais ma stupéfaction. Si j'avais vu leur figure avant, j'aurais pu opter pour une course à travers champs. Botus s'en aperçut. D'un clignement des paupières, il m'assura que la fin de la nuit n'allait pas être simple. Intérieurement, je l'entendais dire « C'est rock'n'roll, c'est rock'n'roll, c'est rock'n'roll !» Les trois lascars puaient dans leur bagnole tout autant nauséabonde. Ils ont mis Botus devant et j'étais assis entre les deux autres. Le conducteur, massif, force de la nature, était le mâle dominant de leur bande. Il parlait avec Botus. Ils se connaissaient sans s'être rencontrés, de par leur notoriété marginale respective. Le costaud semblait bien solide aussi dans sa tête, alors que les deux qui m'accompagnaient sur le siège arrière n'avaient pas l'air d'avoir tout leur esprit. Plusieurs fois, nous mordîmes le fossé et ça les fit rire. Le gros tenait apparemment les arcanes dans ses mains puissantes. Apparemment, car Botus étudiait le cas de figure et l'incitait à se révéler sous ses différentes coutures pour arriver à ceindre son mental dans le but de diriger les manœuvres. Botus n'entendait pas sans laisser compter. Une lutte sans partage s'annonçait. À suivre. sur le blog En Marge Forever, retrouvez Route 77, Beatnik paumé dans l'Ouest profond, plus des récits, des textes et tout plein plus de choses.
Quand j'ai rouvert les yeux, tout était sombre dans la chambre. J'entendais quelque part comme une sonnerie. J'ai voulu bouger, aïe la douleur dans l'épaule droite. Tout à coup me coupa le souffle. Une peur affreuse m'envahit et mon corps se couvrit de sueur. Toute ma mémoire me revint, le hold-up, la fuite, les copains qui se font descendre. Je suis blessé mais je fonce et j'ai le fric. Je glissais la main sous l'oreiller, la mallette pleine de billets était là bien sage. 200 briques, somme toute ça pouvait aller. Mon esprit se mit à cavaler sur était ma planque chez Suzy. Et bientôt à nous de la belle vie. Les palaces, le soleil, la mer bleue, toute la vie, une radio s'est mise à déverser, un air de piano a tout cassé. Je connaissais ce truc, c'était le blue rondo à la Turtève, Broubette jouait comme un fou, aussi vite que moi mettant les bouts. Soudain la sonnerie du téléphone, mon cœur fit un bond, je pris le récepteur, allô c'est Suzy, ça fait deux fois que j'appelle. Qu'est-ce qu'il y a, y a un garde flic au coin de la rue, je restais sans voix, j'étais foutu, il faut que tu files, me dit-elle, descends pas, sauve-toi, parlez-toi. Bon Dieu, encore les flics, vite le fric, et puis l'escalier de service, 4 à 4, 1. Fascista s'était ouvert sur les étoiles et me revoilà faisant la malle parmi les antennes de télé. Ce pognon je ne l'aurais pas volé 30 mètres plus bas dans la rue du Colisée, c'était la cohue. J'en peux plus, j'ai couru comme dans un rêve le long des cheminées. Haletant la mallette à la main, je vacillais. Sur un toit s'amorçait un escalier d'incendie. Sans coup de pente, une courge, je descendis jusqu'en bas. Et me voici à trois pas d'une sortie sur la rue. Quelle rue, je ne le savais plus, mais tant pis, je suis sorti. Et tout de suite, je les ai vus, quatre flics au bout de la rue. Pas de panique, j'ai reconnu le bar du living, j'y suis entré. La boîte était pleine comme un œuf, deux ou trois jazzmen faisaient le bœuf. Je brûlais de fièvre, je voyais les murs, les bouteilles qui tournaient. Puis quelqu'un m'a saisi par le bras, je me retournais, Suzy était là toute pâle, elle me souriait, de nouveau le soleil a brillé. Dans un souffle, elle m'a dit, viens, j'ai la voiture tout près d'ici, nous sommes sortis, mais devant moi, un poulet a crié, ne bouge pas, avec la mallette, je l'ai frappé, alors le coup de feu a claqué, me clouant sur place. Oh Suzy, t'en fais pas. Je te suis, on y va. Les palaces, le soleil, la mer bleue, toute la vie, toute la vie, toute la vie.
Hola, lâche-moi, il y a le feuilleton qui commence. Une lutte sans partage s'annonçait. Route 77, épisode 27, chapitre 12, le puits. La trois chevaux rebondissait sur les chaos d'un chemin de terre en portant au repère des brigands. Sous la pleine lune oblique, s'étendait un no man's land au milieu duquel une caravane attendait un voyage qu'elle ne ferait certes jamais. Sortis de l'auto, nous nous sommes dévisagés en cercle de loups, à jauger fièrement son rang jusqu'à ce que les forces et les faiblesses s'exercent les unes envers les autres, jusqu'à ce que des regards s'abaissent devant un caractère dompteur. Il était clair que Botus allait se charger du grand balèze qui valait bien de bons hommes à lui tout seul. Et moi, il me fallait m'occuper des deux autres. Un obscur petit brin trapu à l'œil noir d'une haine fourbe et vicieuse, et un unijambiste de taille moyenne, maigre et nerveux, aux yeux trop clairs de l'égarement, d'une folie qui illusionne la peur pour ridiculiser tous les diables. Le fond de l'air était maléfique. 4 heures du mat. Les corps frissonnaient et les esprits tremblotaient dans un vide plein de rien. Même le massif, chef des graves, a flairé ce doute supérieur. Botus jubilait d'adorer cette présence éternelle, Dieu l'innommable, le doute permanent. L'existence féconde du néant absolu. Il puisait en cet endroit une force incalculée, une intelligence aiguisée à découper en lambeaux la raison des plus têtus. Il savait que l'affrontement allait être impitoyable. Quand des loups se rencontrent, ils se livrent forcément à un jeu féroce. Déterminer lequel est le maître loup, le plus fort, celui qui décidera de la vie des autres. La caravane tanière était plutôt petite et l'odeur y était infecte. Une lampe à pétrole n'éclairait que peu. Ils nous invitèrent à nous asseoir pour boire un coup. À l'initiative de Botus, je me suis assis le premier, au bout d'un banc à une table. Il se mit à côté de moi et les deux affreux se placèrent en face. Le grand restait debout et touchait presque le plafond. Il amena des verres et une première bouteille, du gros rouge. Il servit, approcha un tabouret et s'assit en président. Botus n'allait pas le contrarier tout de suite. Il fallait qu'il le prépare d'abord. Nous vidâmes ensemble cul-sec un verre de vin abominable. Le molosse nous servit à nouveau et alla chercher 2 autres bouteilles. Il comptait bien nous descendre au gros rouge, qui tache velu. Ses frères se transformaient en hyènes à l'affût d'une mise à mort. Ils étaient certains de la suprématie de leur grand frère. Avec sa voix forte et assurée, il semblait inébranlable et les 2 autres ne faisaient pas que de la figuration. Je me sentis défaillir. Botus était renard, en attente de tourner la situation en sa faveur. Il aperçut ma faiblesse et me chuchota subrepticement. Accroche-toi, accroche-toi. Une confiance en mon étoile invisible ressuscita. Nous aussi savions être des fauves. Je recouvrais un meilleur moral en me rappelant un coriace chef de bande qui avait chopé Botus dans une rue aveugle, sourde et muette, suite à un casse de fringues dont il prétendait avoir été lésé sur le partage. Après une dispute stérile, au moment d'en venir aux mains, Botus s'est déchaussé de ses tiags et les a jetés au visage de l'autre. « Paye-toi avec ça !» Surpris et humilié, le voyou, impressionné, s'est dégonflé, est parti en ne proférant que des insultes et des menaces. Botus s'est précipité à ramasser les bottes laissées à terre, les a lancées rageusement sur le gars déconfit en lui rugissant de les prendre. Sinon, la foudre de sa colère s'abattrait sur le pauvre bougre et sur les siens. L'individu les prit en maugréant quelques rancunes et s'en tourna sans plus d'incidents. À suivre.
On marche.
Et.
Le conseil de la semaine.
Le conseil de la semaine. Messieurs, si un soir votre femme vous dit
« Chérie, je vais chez la voisine lui ramener son petit pot de beurre, j'en ai pour 5 minutes !»
Répondez-lui non, sans hésiter, car si vous avez le malheur d'accepter, elle vous dirait sans aucun doute
« Le poulet est au four, pendant mon absence, tourne-le toutes les demi-heures !»
Capituler, c'est vaincre.
3 kilos de plastique et une vitesse de 8 nœuds. L'héroïne est la maîtresse du narrateur et Peter. Confie le dossier à l'inspecteur Decker. Grand amateur d'enquêtes salées, de pizzas congelées, de fesses d'infirmières et de chasse aux psycho.
Il a tellement envie de bien faire que tout le monde le prend pour un con.
Le plus souvent dans la journée, on fait tourner la télé sans son. On a une corde à linge au milieu du salon, on sait comment s'occuper pendant les périodes sans activité.
La haine, une lutte à mort contre soi-même, avec les autres pour prétexte.
Melinda se fait vomir dans les toilettes après chaque repas. Sa petite robe lui va vraiment à ravir. Elle fait des crises de jalousie quand elle est pas la plus jolie.
Relis-moi autant de fois que tu voudras. Relis-moi autant de fois que tu voudras. Je ne suis pas cohérent, je suis aux abois.
Isa est lobotomisée.
Le principal inconvénient du suicide, c'est qu'il n'est pas possible de recommencer quand on réussit.
En prononçant islam, juif, pute, pédophile, on verra augmenter l'indice de réactivité d'un ou plusieurs points selon le sujet.
Islam, juif, pute, pédophile. Islam, juif, pute, pédophile.
Pour ne pas mourir d'ennui, Barkovski se répétait. Il n'y a que le boule dans la vie.
Le god Riquel, il lui dit, c'est pas lui qui t'emmènera en week-end, ma chérie.
Jusqu'au bout, je lutte pour ne pas m'endormir. C'est lent, chiant, ça passera sur un terre en boucle. La belle affaire.
L'humain, une espèce qui ne parvient tellement pas à s'élever, qu'il lui faudra bien, si elle veut survivre, envisager son salut dans sa chute.
Barbie sans Ken, sans flair. C'est comme la bite de bouche sur la bouche du blair.
L'art, un luxe d'une futilité vitale.
Les chiens à bois, les têtes carapaces.
Je ne me morfonds plus dans la solitude.
Mais il y a tant de pisseuses.
Je m'y délivre pour aussi peu de nuit.
Quand je pense à hier, j'ai mal. Quand je pense à aujourd'hui, j'ai mal.
Je m'y délivre.
Pour penser à demain, j'ai des mots. Relis-moi autant de fois que tu voudras.
Il lui dit.
Relis-moi autant de fois que tu voudras.
Barkovski,
je suis pas cohérent. Je suis aux abois.
Pour aussi peu de mots.
Relis-moi autant de fois que tu voudras.
Plus j'écris, plus il m'est pénible d'écrire. Moins j'écris, plus il m'est pénible de vivre.
Relis-moi autant de fois que tu voudras. Je ne suis pas cohérent. Je suis aux abois.
77, épisode 28, suite du chapitre 12, le puits. Au bout de trois verres de pinard, une lourdeur glauque planait. Pour Botus était venu le moment d'être sérieux en commençant à les faire parler, voir ce qu'ils avaient dans le ventre. « Où est votre autre frère ? Il en manque un, vous êtes quatre !» L'innocente question déclencha l'hilarité. « Dis-lui où il est, le frangin !» décocha le Maous à l'intention de l'unijambiste Palot. Excité, celui-ci postillonna des termes incompréhensibles, bégayé avec hystérie ascensionnelle. Le grand frère coupa autoritairement le détraqué. « Arrête ! Calme-toi, tu vas bien ! Parle-nous comme il faut ! Alors, où il est le frangin ? Ha ha ! Dans le puits ! Il est dans le puits ! » Les deux autres réclatèrent de rire. « Il l'a jeté dans le puits !»« Raconte comment t'as fait, allez, dis-leur !»« Il tirait de l'eau, je l'ai poussé !»« Il est tombé dans le puits !»« Il criait, il avait peur !»« ça va, calme-toi !»« Et tu l'as regardé se noyer ?»« Il savait pas nager, hein ?» Tu l'as regardé se noyer, salaud! Ah. Oui! Il pleurait! Il voulait que je lui lance la corde! Je voulais pas! Il m'aurait tué s'il était remonté! Tu l'as bien eu, hein? Oui! Oui! Et pourquoi tu y as fait ça? Ma jambe! J'ai vengé ma jambe! Le petit brin Vislard, resté silencieux, prit alors plaisir à agacer le timbré. « Il te l'a bien eu, ta jambe. »« Mais moi, je l'ai eu, lui. Il pleurait, criait, pitié, pardon, il est mort, pas moi. »« T'as plus qu'une jambe et une béquille. » Une jambe s'est alors énervée et a voulu taper sur l'allumeur provocateur de discorde. « J'ai deux points pour ta gueule !»« Oh, vous allez pas commencer tous les deux !» Le grand raya l'accrochage, un simple échange de menaces s'en suivit. « Je t'aurai toi aussi !» Le désaxé en bavait à l'adresse du brin. « Tiens-toi tranquille avec moi ou je te bousillerai la jambe qui te reste !»« La ferme !»« Pensez à votre mère à qui j'ai promis de vous garder !» Le grand devenait presque attendrissant. « Il y en a un cané, je veux pas qu'il y en ait un autre !» À cette parole, le brin rebondit de rire et s'exprima avec une tonalité de croque-mort. « Cette grosse traînée, tu te l'as baisée, c'est pour ça que tu dis ça. Tais-toi, ignorant, c'est moi l'aîné, c'est moi qui commande. Le père l'a dit avant de mourir. Il a crevé le vieux, c'est notre putain de mère. » Il l'a empoisonné à la morora. T'as pas à parler comme ça des parents ? Oh, toi, le boiteux, c'est même pas ton père. T'es un bâtard et un idiot. C'est à cause de toi que la mère a fait crever le père. C'est pas vrai ! Je te tuerai ! Top là ! On a des invités ! Allez, buvons un coup, ça passera ! Interrompait le Big. Il nous resservit tous et causa calmement, pratiquement solennellement, voix presque douce. Douce amère, de compatissance envers sa famille réduite. Son malheur était autant aigre et consumant que le mauvais vin avalé. Notre frangin qu'il a jeté dans le puits lui avait tiré dessus avec le fusil. C'est comme ça qu'il a perdu sa jambe. Trop criblée de chevrotine, et elle s'est infectée. Et quand on l'a portée trop tard à l'hôpital, ils lui ont coupé la gangrène. Je l'ai vu, coupa le brin fièrement. Tu l'as vu et t'as rien fait pour l'empêcher. Le gros se fâchait-il? Il méritait le coup de fusil. Je l'ai eu après. Il disait pitié dans le puits. Ça suffit, vous deux. Puis, s'adressant à nous en se sentant obligé d'une explication, une fois qu'il s'était fâché pour pas grand-chose, avec toute la vengeance de sa jambe en moins, il l'a poussé dans le puits. Il l'a eu par surprise. L'autre était costaud comme moi, il n'aurait pas pu lui faire face, surtout handicapé. « Comment t'as fait, Dick, une jambe, pour le pousser ? Raconte ! J'aime bien quand tu le racontes.
Il m'a pas entendu. Je suis arrivé comme ça. »
Mimant une projection d'épaule de rugbyman.
Il a basculé net. J'ai failli tomber avec lui. Tellement j'ai mis toutes mes forces.
Il s'est tapé le torse à la façon d'un gorille.
J'étais content. Je l'ai eu.
Ça aurait été mieux que tu tombes avec lui. C'est toi qui as mis le malheur chez nous, bâtard.
C'est pas ma faute. Je vous aurai. Je vous aurai.
À suivre.
Le dos courbé et la démarche bien cadencée. Plastique sur la tête, sur silnette et bien sûr le ciré. Le caddie rouge écossais qui a déjà quelques années. Et même dehors pour se déplacer, elle met des charentaises aux pieds. Mémé a décidé ce matin d'aller au marché. Et rien ni personne, même pas Dédé, ne pourrait l'arrêter. Un jour elle est même passée avec une 103 quittée. Je vous raconte pas la fois où elle a pris le trottoir en VTT. C'est une grand-mère bien vénère, donc vaut mieux l'éviter. Pour votre information, sachez que cette mémé est calibrée. D'un fusil à pompe sans le canon qu'elle a elle-même scié. Vaut mieux la respecter, ça y est, mémé, encore 100 mètres et là v'là arrivé. Devant tous les commerçants qui se sont mis à paniquer. Les femmes, bien sûr, les enfants, évidemment, se sont sauvés. Car tout le monde sait que dans le quartier, faut pas faire chier, mémé.
Faut pas faire chier, mémé. Faut pas faire chier, mémé.
Ça non, faut pas faire chier, mémé.
Faut pas faire chier, mémé.
Tout le monde sait que dans le quartier,
faut pas faire chier, mémé.
Ça non, faut pas faire chier, mémé. Mémé demande quelque chose, vaut mieux lui apporter. Mémé est comme ça, sans perdre des tracas. Tout le monde sait que dans le quartier, ha. Premier avancé, premier contact, premier.
Bonjour mémé.
Pas de réponse immédiate, ici on est habitué. Parfois elle met des coups de sac à celui qui l'a oublié. Mais pour éviter les claques, tu connais le refrain, faut pas faire chier, mémé. Voilà pourquoi la panique au marché s'est installée. En particulier devant le boucher où mémé s'est posé. Elle a ouvert le caddie, sorti le fusil et a crié:
je voudrais 2 kilos de maquereau et surtout faut pas m'arnaquer.
Ah et voici la suite, c'est vrai que j'étais terrifié. Beaucoup de gens ont pris la fuite, imaginez mémé armé. Même l'inspecteur Derrick devant le danger aurait tracé. Car tout le monde sait que dans le quartier, faut pas faire chier mémé.
Faut pas faire chier mémé. Faut pas faire chier mémé.
Ça non, faut pas faire chier mémé.
Faut pas faire chier mémé.
Tout le monde sait que dans le quartier,
faut pas faire chier mémé.
Ça non, faut pas faire chier mémé. Mémé demande quelque chose, vaut mieux lui apporter. Mémé est comme ça, sans perdre des tracas. Tout le monde sait que dans le quartier, ha. Pas de solution, pas dans ton loup, faut parler à mémé. Elle qui fonctionne à la soupe est en train de braquer le boucher. Je me suis rapproché pour essayer un peu de communiquer. Là elle m'a dit:
dégage petit, sinon je vais tous vous allumer.
Ok mémé, mais ce garçon n'est pas poissonnier. Elle s'est reculée, l'a regardée et s'est mise à douter. Les sourcils collés, frustrés, la main sur le gun, elle a tiré. La morale de cette histoire, si un jour tu rencontres mémé, change vite de trottoir, n'essaie même pas de lui parler. Le résultat a été 21 morts et 3 blessés. N'oublie jamais que dans le quartier, faut pas faire chier mémé.
Faut pas faire chier mémé. Faut pas faire chier mémé.
Ça non, faut pas faire chier mémé.
Faut pas faire chier mémé.
Tout le monde sait que dans le quartier,
faut pas faire chier mémé.
Ça non, faut pas faire chier mémé. Mémé demande quelque chose, faut mieux lui apporter. Mémé est comme ça, sans.
en perd tes tracas. Tout le monde sait que dans le quartier,
faut pas faire chier mémé. Faut pas faire chier mémé.
Faut pas faire chier mémé.
Ça non, faut pas faire chier mémé. Tout le monde sait que dans le quartier,
faut pas faire chier mémé.
Ça non, faut pas faire chier mémé. Mémé demande quelque chose pour mieux lui apporter. Mémé est comme ça, sans perdre tes tracas. Tout le monde sait que dans le quartier, faut pas faire chier mémé. Ça non, faut pas faire chier mémé.
Hey,
spécial dédicace à toutes les grand-mères de France. Hey, spécial dédicace à toutes les mamies du quartier. Hey, respect, hey, faut pas faire chier mémé. Ça non, faut pas faire chier mémé.
Faut pas faire chier mémé.
Bon, au prochain mondial, il n'y a pas le Sénégal. Bon, mais moi, je vais supporter l'Argentine. Parce que moi, pour moi, ce n'est pas une question de je suis noir, je suis blanc, je suis jaune, quelque chose comme ça, quoi. Pour moi, il n'y a qu'une seule race, la race humaine.
Dans un coin du bar, le bonheur est assis. Sorte de vieillard comme n'importe qui ne dit pas merci pour tout ce qu'il a bu, tout ce qu'il a pris et qu'il n'a pas rendu dans le jour qui se lève, dans la nuit qui fut. Car qui de nous, jamais heureux, ne fut un jet de pierre. Gérard Manset. Route 77, épisode 29, suite du chapitre 12, le puits. J'étais choqué par ces démons. Mais Botus avait visiblement pris de l'intérêt à entendre les démêlés de ces trois horribles. Les divisions auxquelles nous venions d'assister pouvaient nous octroyer un avantage dans la suite des opérations. Je restais perplexe devant les tournures possibles de la situation. Ils allaient peut-être s'entretuer ou se concilier pour nous tuer, puis nous manger. Ces monstres semblaient capables d'invraisemblables cingleries. Sans froid, je raisonnais impérativement pour tenir face à ces gravités. Le grand frère Grave était assez décontenancé par la prestation de ses deux protégés. Ce moment bref de flottement, Botus l'a pesé et avant que la masse ne réagisse, il s'égosilla à moitié, tel un marin dans une taverne.
À boire ! Buvons tant qu'on est vivant !
Constatant les bouteilles vides, j'emboîtais la pulsion de mon camarade.
Et de la bière pour changer ! Non, de la gnôle ! Rétorqua le collègue. Si t'en as !
Envers le maître du lieu.
Mouais, de la gnôle, y en a.
Je décodais. Si t'as les tripes, ouais, tu vas voir. Mastodonte fouilla un placard, en sortit une bouteille en verre blanc et l'exhiba en trophée d'un vainqueur. Botus se leva promptement. Debout, face aux barbares, il s'en allait livrer bataille. Route 77, chapitre 13, alcool et mauvais vin. Une première tournée de fort, gorgée brûlante, nervosité, regain d'excitation de la tablée. Le petit brin s'est levé pour montrer qu'il était aux ordres de l'aîné et l'unijambiste fit le tour pour s'asseoir à mon côté, me bloquant l'accès à la sortie. Botus était à son affaire. Debout devant le massif à le toiser des pieds à la tête, sa petite taille l'obligeait à être grand autre part. Il avait mûri intellectuellement dès la première adolescence. Il avait expérimenté les comportements psychologiques, étudié les conceptions humaines. Il se référait à sa culture propre, façonnée de combats et de folies. Pour l'heure, il avait confiance dans sa connaissance de l'alcool. Il voulait se faire le barbu, géant par rapport à lui, ce pouvait être le remake de David et Goliath. En bon frangin de cœur, nous étions en télépathie. Nous ne devions pas laisser paraître d'intentions stratégiques. Il fut évident d'éliminer l'assassin au mental délicat pour laisser place à l'affrontement des chefs et des lieutenants. Quand le fou s'est assis à côté de moi, la vue de près de l'absence de sa jambe me fit tressaillir. Il cherchait le contact corporel. C'était un PD, pas moi. J'ai contenu ma réaction pour ne pas susciter de heurts. Nous n'étions pas encore à notre avantage. Du reste, arriverions-nous à l'être? Je me suis contenté de lui dire gentiment « Hé, tiens-toi tranquille, buvons, discutons. » Je le servis, me servis et levai mon verre en l'invitant à en faire autant. Il suivit mon geste. Nous bûmes d'un trait. J'ai voulu recommencer, mais il m'a saisi la main quand j'ai voulu reprendre la bouteille. Il s'est approché et a cherché à m'embrasser. Je l'ai vivement poussé d'un bras et j'ai viré sa main de la mienne. Il insista et je l'ai repoussé. Les autres s'attentionnaient à ce qu'il se passait sans intervenir. J'ai proposé une tournée générale. La fatigue, la folie et la boisson avaient entamé les équilibres neuroniques. À suivre. Pour plus et davantage, retrouvons-nous sur le blog
C'est dur la vie, vous me comprenez bien. C'est beau l'amour, tu l'as écrit sur moi. C'est bon l'amour, tes mains déploient. C'est lourd l'amour, accroché à nos reins. C'est court l'amour, et ça ne comprend rien. C'est fou la mort, plus méchant que le vent. C'est sourd la mort, comme un mort sur un banc. C'est noir la mort, et ça passe en riant. C'est grand la mort. C'est plein de vie dedans.